dire bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Landru, que sont devenus Madame Labordeline, Madame Éon, Madame Buisson?
Tiens, mais c'est vrai. Que sont-elles devenues?
C'est moi qui pose les questions, Landru!
J'espère qu'elles sont heureuses. Mais vous comprendrez que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de tout ce petit monde.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Landru, voilà un nom qui s'accroche dans nos mémoires, entouré d'un halo sulfureux, une sorte de barbe bleue dont la barbe était rousse. L'homme qui brûlait les femmes dans sa cuisinière de sa maison de Gambet après les avoir découpées en morceaux. L'homme à la verve spirituelle qui n'avoua jamais jusqu'au cœur d'un procès retentissant et qui demeure par ce fait même entouré de quelques mystères. Il serait loisible, bien sûr, de considérer cet épisode tonitruant, non sans quelques plaisirs ambigus au fil du récit, le plus anecdotique. Mais après plus d'un siècle écoulé, depuis que Landru fut guillotiné, on peut y aborder en ouvrant plus largement la focale. Ce sera pour constater que cette affaire retentissante peut nous renseigner au-delà d'elle-même sur diverses spécificités de l'époque, juste après la Grande Guerre, tout comme sur diverses permanences dans les comportements collectifs. Sur les procédés de la police, alors en pleine mutation technique, sur la place des faits divers, dans l'évolution de la presse populaire, sur les ressorts et les comportements de la justice, confrontés en cour d'assises à ce défi particulier, sur le regard de tout un monde littéraire et politique, sur les évolutions et les prestiges de l'éloquence judiciaire, sur les avatars enfin et les procédés d'une légende quand elle s'empare d'un tel événement dans les lettres, au cinéma, à la télévision, pour en nourrir fantasmes, angoisses et joyeuseté. Bruno Fuligny, mon invité, s'est penché sur cette affaire dans un livre qu'il a intitulé, selon un oxymore stimulant, Landru, l'élégance assassine. Excellent connaisseur de la Troisième République, il en a exploré les tours et les détours dans un grand nombre d'ouvrages qu'il a nourris brillamment de ses trouvailles et de ses curiosités. Nous allons mobiliser sa compétence pour cette restitution d'une histoire que l'on est tenté de qualifier de faits divers absolus.
Monsieur le procureur, je regrette de n'avoir à vous offrir que ma tête.
Oh oh, silence, où je vais évacuer la chambre.
Landru, vilain barbu, tu fais peur aux enfants, tu séduis les mamans. Landru, ton crâne et ton poil de rue ont fait tomber bien plus d'un prix de vertu. C'était, je crois, en 1923 que ton procès eut le succès que l'on sait. Landru, dommage qu'elle t'ait cru, toutes celles qui sous ton toit brûlèrent pour toi. Tu leur parlais si bien lorsque tu leur disais: venez, ma douce amie, allons vite à Gambet. J'ai une petite villa, rien que monter des cendres. Et là, celle montait et descendait en cendres. Landru, de quel bois te chauffes-tu? Ton four fait de la fumée sous la verte ramée. Landru, un ramoneur est venu. Il a, dans ta cheminée, trouvé un nid calciné. Pendant le verdict, pas un mot, pas un tic, énigmatique, tu restes hiératique. Landru, en jaquette, en bottine, y a une veuve qui t'a eu la guillotine. Landru, Landru, on prétend qu'on t'a vu en bon petit vieux grand-père vivant à Buenos Aires. La barbe rasée et la moustache frisée, plus rien de l'homme d'alors, c'est ça la mort. Disons tout de suite qu'en 1928, ce genre d'histoire était facile à croire. Landru, Landru, tout passe avec le temps, à présent tu ne fais plus peur aux enfants. Mais tu séduis pourtant bien des grands-mamans, et de Blue Castel la Tarbe, elle rêve de ta barbe et de son poil dru, vieux Landru.
Bruno Fellini, bonjour.
Bonjour.
Je ne doute pas un instant que vous avez reconnu Charles Trenet, qui chantait Landru en 1963. À bonne distance de l'événement, à telle enseigne que les aspects un peu fantasmatiques, la légende peut se développer, ce qui n'est pas sans intérêt à considérer.
Bien sûr, c'est un Landru de fantaisie qu'on entend dans la chanson de Trenet. Il y a évidemment des approximations sur les dates. Ce qui est frappant surtout, c'est le caractère joyeux, guilleré, enlevé de cette chanson.
Oui, 23 pour la rime en fait,
exactement.
Et puis 1928,
on ne sait pas trop pourquoi. Bon, le procès a lieu en 1921 dans la réalité. Mais surtout, cette espèce de joie, de plaisir, de jubilation à évoquer l'affaire Landru, alors qu'il s'agit tout de même d'un homme qui a été guillotiné parce qu'on lui reprochait d'avoir fait disparaître 11 personnes. Donc il s'agit d'un tueur en série. Imaginerait-on aujourd'hui une chanson aussi joyeuse sur Jeffrey Dahmer ou sur Fourniret? Bien sûr que non. Cette chanson nous montre que Landru, de longue date, a un statut tout à fait à part, tout à fait particulier dans l'histoire criminelle, à la fois française et, je pense, mondiale, puisque Landru, c'est l'assassin sympathique, l'assassin rigolo, l'assassin qu'on aime bien. Ça veut dire que le Landru, je dirais historique, le Landru qui tue, le Landru qui dépèce, le Landru sanguinaire, a totalement disparu en fait, ce qui va beaucoup énerver en particulier Belin, le policier qui l'a arrêté, au profit d'un personnage tout à fait fantasmatique. Il faut voir que dans les années 70, par exemple, dans les cafés, il y avait des petits cendriers où on voyait un petit Landru goguenard qui disait « blonde, rousse, avec moi elle part tout en fumée ». Bon. Aujourd'hui, vous iriez en prison si vous disposiez de telles publicités dans les commerces.
Il faut que vous nous rappeliez, pour ceux dont la mémoire serait un peu floue quant à l'affaire Landru, les principaux moments de ce fait divers.
En fait, c'est assez étonnant comme fait divers, parce que des femmes disparaissent pendant 5 ans. Nous sommes pendant la Première Guerre mondiale, mais au fond, dans une indifférence totale. Et puis, il y a des enquêtes qui sont faites mollement, mais au cas par cas. Et il se trouve que, après la guerre, en 1919, un jeune inspecteur des brigades mobiles,
Jules Belin,
va être chargé de 2 dossiers de disparition, et il a cette intuition géniale, à une époque où le concept de tueur en série évidemment n'existe pas. C'est que ces 2 dossiers se ressemblent tellement que ça pourrait être un même individu qui soit à l'origine des 2 disparitions. Et il part sur cette base, il refait les 2 enquêtes à sa manière, et l'homme qui tuait depuis 5 ans tombe en une semaine. En une semaine, il retrouve des masques, arrête ce personnage et va l'interroger. Bon, alors évidemment, en 1919, ça fait grand bruit parce qu'il n'y a pas eu de grandes affaires criminelles pendant toute la Grande Guerre. La presse était censurée.
La tension était ailleurs.
Il y a eu des procès, mais c'était des procès pour trahison, des procès pour espionnage. On n'était pas dans le fait divers. Le dernier grand fait divers, c'était l'affaire Caillot juste avant la guerre, juste avant le déclenchement de la guerre. Et donc, on a une opinion qui a été un petit peu sevré en quelque sorte, voilà, qui a envie de renouer avec le grand fait divers, et ça va être, vous l'avez dit, le fait divers absolu. Effectivement, c'est une expression qu'on peut tout à fait revendiquer, c'est le fait divers par excellence. Aujourd'hui, si vous prenez le Petit Larousse, dans la partie non propre, il n'y a que 2 criminels à avoir inscrit leur nom dans le Petit Larousse, c'est Petiot et Landru.
Il faut vous dire que ce Jules Belin doit être compris aussi comme un membre de la brigade mobile, c'est-à-dire des brigades du Tigre, qui ont été fondées, comme on sait, à l'époque de Clémenceau, ministre de l'Intérieur et président du Conseil avant 1914. Rappelez-nous ce qu'étaient ces brigades du TIC qu'on connaît bien en France grâce à un feuilleton, un succès qui avait été donné à la télévision aussi déjà plusieurs décennies.
Ce qu'on appelle les brigades du Tigre, c'est un surnom qui est venu après coup et qui s'est popularisé avec ce feuilleton. Au départ, ce sont les brigades mobiles. Et ce que Clémenceau, ministre de l'Intérieur, veut faire, c'est véritablement rénover la police à un moment où la criminalité, on est dans les années 1900, hein, à partir de 1906, au moment où la criminalité s'organise et devient elle-même très mobile.
La difficulté, c'était qu'effectivement, quand il se passait quelque chose dans un département, il était très difficile de le rapprocher d'un autre fait divers survenu ailleurs.
Exactement, et non seulement de département à département, mais il y avait des polices dans les villes, des gendarmes dans les campagnes, des gardes champêtres dans les villages. Tout ce monde-là ne communiquait pas, et on ne pouvait pas mener d'enquête au-delà d'étroites limites administratives. Donc ça donnait un champ absolument incroyable à de véritables bandes organisées, comme la caravane à pépère, ou on a vu réapparaître des chauffeurs, c'est-à-dire des gens qui entraient dans les fermes, qui chauffaient la plante des pieds des gens. À une époque où on n'avait pas de compte en banque dans la paysannerie, on cachait son or quelque part dans la ferme, et donc ces gens-là avaient l'art de faire avouer dans la douleur l'emplacement de l'or.
La bande à Bonneau.
Plus tard, il y a eu la bande à Bonneau. Effectivement, les mobilards ont joué un rôle important dans leur chute.
Mobilards, c'est-à-dire les membres de ces brigades du
tir. C'est ça. Et c'est une police d'élite. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a à Paris la préfecture de police que Lépine a lui-même rénovée, mais qui reste une police relativement traditionnelle. Et puis, il y a ces brigades mobiles, la première brigade mobile, qui à l'époque est installée à Paris, elle ira ensuite à Versailles, rue Greffule, pas loin de la Madeleine, et avec un recrutement très sélectif, avec des policiers très motivés, et puis, ça nous paraît évident aujourd'hui que les policiers aient des voitures et des lignes téléphoniques, mais à l'époque, évidemment, ce sont des biens de luxe. Pensez qu'au Palais Bourbon, dans les années 1900, il n'y avait qu'une seule ligne téléphonique pour les 600 députés. Donc, que des policiers aient des lignes téléphoniques, qu'ils aient des automobiles, c'était étonnant.
Et comme le drame va se produire à Gambais, c'est-à-dire près d'Oudan, c'est-à-dire en Seine-et-Oise, c'est-à-dire en dépendant de Versailles, il était particulièrement nécessaire d'avoir ce lien entre la capitale et le lieu du crime.
En effet, Landru est un personnage mobile, il a une famille qui loge à Clichy, mais il est mécanicien, garagiste, inventeur même, donc il a des garages, des remises, des établis un petit peu partout en région parisienne. Il va y avoir une première maison du crime à Vernouillet, mais elle est un petit peu trop visible depuis les maisons des voisins, et donc il va trouver à Gambais une villa qui est isolée. Isolé du village, donc un village tranquille, une villa à l'extérieur du village. Cette villa va faire la joie des journalistes car son propriétaire, il loue hein, cette villa, son propriétaire s'appelle Monsieur Trick. Donc vous imaginez la villa Trick, ça va beaucoup amuser nos arrière-grands-parents.
Cette distance géographique justifie le principe des brigades du Tigre. Je vois la circulaire fondatrice du 4 avril 1908. Où était proclamé assez joliment qu'en créant les brigades mobiles, le gouvernement aurait pour but unique, de doter notre pays d'un organisme devenu indispensable à la préservation sociale. Il a voulu faire rechercher et poursuivre par des agents expérimentés, se déplaçant rapidement, investis d'une compétence étendue, les malfaiteurs de toute catégorie, auxquels l'extension et le perfectionnement des moyens de communication offrent de jour en jour des facilités plus grandes d'évasion. On y est. Et tout cela éclaire d'une façon particulière l'enquête.
C'est assez
extraordinaire. Votre ami Jules Belin.
C'est assez extraordinaire parce que ces brigades mobiles, au départ, sont mises en place pour poursuivre des bandes organisées de criminels, mais leur mobilité, leur large compétence géographique va les rendre également opérationnels pour quelque chose, une forme de criminalité à laquelle on n'avait pas pensé, les tueurs en série. Nous savons aujourd'hui que les tueurs en série s'ingénient à franchir des frontières administratives, parfois même internationales, de façon à rendre très difficile l'enquête ou la poursuite, avec un inspecteur qui est capable de se transporter de Paris en banlieue, de mener une enquête assez large, de réunir une documentation, eh bien, on est en position de faire tomber un assassin aussi retors et mobile que Landru.
Bien, écoutons le témoignage de Jules Belin, membre donc de la première brigade mobile, qui raconte dans quelles conditions il a arrêté Landru. C'est un extrait de l'émission d'André Gillois du 4 avril 1958. Soyez témoin. Voilà un beau témoin.
Un matin des premiers jours d'avril 1919, je reçois un dossier concernant la disparition mystérieuse en 1916 de deux Parisiennes, mesdames Colomb et Buisson. Je me suis toujours méfié des romans feuilletons. Mais tout de même, il est bien vrai qu'il naît au cours des guerres de monstrueuses affaires criminelles. Je me mets donc immédiatement en campagne, muni du seul signalement de Landru, se faisant alors appeler Guillet. Nuit et jour, j'explore le 9e arrondissement. La chance finit par me favoriser et j'apprends enfin qu'il existe 76 rue de Rochechouart un monsieur Lucien Guillet se disant ingénieur. Mais hélas, il est parti en province sans qu'on connaisse la date de son tour. Mais j'en arrive vite à la soirée du 11 avril 1919. Je rentrais chez moi en effectuant un détour par le 76 de la rue de Rochechouart. Devant cet immeuble, mon cœur se mit violemment à battre lorsque j'aperçus de la lumière qui filtrait à travers les persiennes de l'appartement du soi-disant Guillet, 6 au premier étage. Pour pénétrer chez Guillet, il me fallait, en vertu de la loi, attendre le jour. Je monte la garde sur le trottoir, puis en accord avec le concierge, je pénètre dans l'immeuble. Il est 2h du matin, je m'installe sur le paillasson de Guillet, de cette façon pensais-je, si je m'endors et si Guy a l'intention de s'enfuir avant le jour, il lui faut ouvrir la porte et me passer sur le corps. Puis au petit jour, c'est l'arrestation. Après bien des difficultés, Guy se décide à m'ouvrir. Il est en pyjama, étriqué, maigrelet, la barbe en broussaille. Il se refuse à me suivre et il me faut le déposer de force dans un taxi pour l'amener à mon bureau. En cours de route, je lui dis « Ah, c'est une très grave affaire que la vôtre. Une affaire d'assassinat, même de plusieurs assassinats. Oh, dit-il, pas si vite, assassinat au pluriel, avec un S. Vous allez un peu fort, il vous faudra toutefois le prouver. » Je constatais alors que cet homme était farouchement décidé à se défendre. L'avenir allait me donner raison. Dans une poche de son veston, je découvre un carnet dont une seule page, la première, porte une écriture tracée en berronde de la main de mon détenu. Je lis aussi 11 noms, dont mon enquête devait établir qu'il s'agissait des 11 victimes du misérable.
Nous avons là, Bruno Fellini, un récit qui sera presque indéfiniment répété jusqu'à la mort de Belin par lui-même. C'était son grand fait d'armes. On en a beaucoup d'archives. Il est là, en même temps, il rend bien compte de la scène.
Oui, c'est très vivant, c'est le grand succès de sa vie. Il faut bien se rendre compte que sa hiérarchie se moquait de lui, ne croyait pas du tout en sa théorie d'un tueur unique, ironisait sur sa passion pour ces femmes mûres mystérieusement disparues. Donc c'est d'abord un très beau succès, et puis il se trouve confronté à quelqu'un de très différent de sa clientèle habituelle, de Pégriot. Ce suspect, s'appelle-t-il Guillet, Frémiet, Landru? Bon, l'enquête va permettre de le déterminer, mais cet homme qui a beaucoup d'identités différentes présente très bien, s'exprime très bien, résonne à tous les dehors d'un citoyen exemplaire de la Troisième République. Donc Belin est à la fois très fier d'avoir démasqué ce tueur quasi indétectable et puis frustré parce que Landru n'avouera jamais ni au moment de l'interrogatoire, ni au moment du procès, ni même au pied de la guillotine d'ailleurs.
Il faut que nous resituions cet événement effectivement très, très coloré, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans cette ambiance générale des années 1900 et suivantes, la Belle Époque, puis la Grande Guerre, avec une émergence du fait divers, on peut se référer là aux beaux travaux de Dominique Khalifa, L'encre et le sang, qui montrent bien ce qu'il y a eu de particulier en ces années-là quant aux faits divers. Je voudrais que nous nous y attardions un instant, puisqu'il s'agit bien d'un fait divers exceptionnel, absolu.
Il faut se rendre compte que, au tout début du 19e siècle, la presse coûtait cher, les journaux étaient imprimés à la feuille, à petit tirage, s'adressaient plutôt à une élite. À partir du milieu du 19e siècle, on a une presse plus lue, on va arriver aux journaux à un sou, c'est-à-dire 5 centimes. L'invention de la rotative va permettre de tirer un grand nombre d'exemplaires et donc de vendre des journaux à un public populaire. Et donc l'émergence du fait divers dans la presse va de pair avec la diffusion colossale de cette presse. Il faut voir que le petit journal dépasse très vite le million d'exemplaires et certains de ses concurrents atteignent également cet ordre de grandeur, y compris des quotidiens locaux, des quotidiens de province.
À la fin du Second Empire, l'affaire Troppmann à cet égard est tout à fait représentative.
Oui, l'affaire Troppmann, donc c'est une famille entière hein, qui va être décimée par un assassin.
Sur les fortifs.
Avec toutes sortes de doutes sur les motivations de l'assassin. Était-ce scrapuleux? N'y aurait-il pas une affaire d'espionnage? Car c'est une famille alsacienne qui a été victime de cela. Enfin bon, cette affaire va être traitée véritablement sous la forme d'un feuilleton, en fait. Elle a en elle-même de nombreux rebondissements, mais la presse va littéralement la fictionner. Et puis on commence aussi à voir apparaître de l'illustration, c'est-à-dire qu'on passe d'une presse typographique à une presse qui reproduit les scènes de crime, les faciès des assassins, à une époque où on s'intéresse beaucoup au visage des tueurs. On se demande s'il n'y a pas une bosse du crime, s'il n'y a pas des indices qui permettent de détecter la dangerosité d'un personnage. Toutes ces recherches-là se combinent dans l'idée qu'il y a sans doute des signes extérieurs, des signes détectables qui permettraient soit de prévenir le crime, soit de l'éradiquer. Donc il y a une dimension à la fois utopique et puis assez glaçante, assez effrayante, mais cela va se traduire dans la presse populaire par des dessins, des caricatures, des portraits de criminels. On va s'intéresser aux tatouages, on va s'intéresser à tout ce qui peut marquer véritablement la différence sociale du criminel.
Avec en même temps une obsession du désordre social. C'est le moment où on a l'impression que la société devient criminogène. Et je dirais que regarder depuis aujourd'hui, cette donnée n'est pas sans quelque intérêt.
Tout à fait. Le fait divers, c'est le miroir d'une société. Un bon fait divers, un fait divers qui a du succès, c'est le résumé d'une époque, c'est le moment où la société contemple ses vices, ses peurs, son esprit du moment finalement qui apparaît violemment. C'est-à-dire qu'au-delà du caractère particulier, spécifique d'un fait divers, eh bien les lecteurs, le public va suivre parce qu'il va retrouver quelque chose de son temps. Le fait divers nous renseigne aussi sur la sexualité d'un temps. Ce qui est considéré comme permis, ce qui est considéré comme tolérable, ce qui est considéré comme monstrueux. Et de ce point de vue-là, à travers le fait divers et finalement la couverture d'une actualité qu'on rapporte, eh bien, on peut parler de choses dont on ne parle pas forcément dans les autres rubriques du journal.
Ce qui inquiète désormais sont moins les ouvriers en révolte, comme au 19e siècle, que ceux qui sont réfractaires au travail, le vagabond, le gréviste, l'étranger, la femme. On voit cela clairement sur les premières pages des journaux.
Nous savons qu'à la Belle Époque, par exemple, les lecteurs sont fascinés par l'univers des Apaches. Au fond, les Apaches sont peu nombreux. Ce sont de très jeunes voyous parisiens qui vivent de petits larcins, de délits, quelquefois de crimes, mais assez rarement. C'est plutôt des règlements de compte entre eux. Et puis, ce sont surtout de jeunes proxénètes, donc avec de très jeunes femmes qui appartiennent au même milieu. Et puis, une esthétique, un costume, le goût de la danse. Et on rêve d'aller s'encanailler auprès des Apaches, quitte à y perdre sa jolie montre à gousset en or. Donc, il y a cette tension du lecteur qui est attiré par les marges de la société, tout en ayant le souci de sa sécurité. Le journal qui arrive à la maison ou qu'on achète au crieur dans la rue, donne voilà, un petit regard, un petit temps, un petit moment commun avec ce monde des marges dans lequel on n'a pas trop intérêt à s'attarder, mais qui évidemment retient la curiosité, titille l'émotion du lecteur, forcément.
Certains types de frissons. Sur cette affaire du fait divers et de son évolution à cause de la presse et pour d'autres motifs, écoutez donc cette analyse de Roland Barthes. En mars 1964, c'est un extrait de L'Heure Bleue, l'émission de Laure Adler.
Un fait divers m'intéresse parce que, précisément, il n'est pas, si vous voulez, à mes yeux, la simple relation d'un fait réel qui a existé, une sorte de relation neutre et objective, mais il est un véritable récit, comme on peut en trouver dans des contes populaires autrefois, c'est-à-dire une certaine façon que le journaliste a, et derrière le journaliste d'ailleurs très vraisemblablement tout son public, de déformer en quelque sorte le fait, de le décomposer en ses thèmes, en ses constantes, pour reconstituer un objet nouveau et nouvellement agencé qui est le récit. Ce qui est arrivé disparaît presque, dirais-je paradoxalement, sous la façon en quelque sorte nouvelle et générale dont on le raconte. Oui.
Ce propos vous paraît bienvenu, Bruno Fulini ?
C'est tout à fait éclairant. Barthes a écrit que le fait divers n'avait pas de sens, mais qu'il avait une signification. Et la nuance est tout à fait intéressante à observer. C'est vrai qu'un fait divers, d'un point de vue factuel, est un enchaînement d'absurdités qui aboutissent à des violences. Bon, mais si on le situe dans son contexte, si on recherche un petit peu, son influence sur la presse, sur la littérature, on se rend compte qu'effectivement, il est signifiant. Et puis, il fait cette relation avec les contes, avec les récits populaires, et c'est très vrai. C'est d'autant plus vrai dans l'affaire Landru, qui va être surnommé le Barbe Bleue ou l'ogre de Gambet. Donc là, on est vraiment dans le conte pour enfants, avec cette nuance que Landru va être un ogre sympathique, c'est-à-dire que plus qu'un personnage monstrueux, sanguinaire, on sait par exemple qu'il n'était pas sadique. Ça va être une sorte d'ogre truculent. Et donc presque un personnage de conte pour enfants, un personnage dont il faut se méfier, mais qui est aussi un peu sympathique, paradoxalement.
Il faut que nous en venions au procès, qui est un moment essentiel. Bruno Fulini, un grand événement national, politique, mondain.
International même.
International.
On a des articles dans la presse américaine, dans la presse britannique, le monde entier a les yeux fixés sur ce fait divers si français.
Il a fallu attendre 2 ans puisque l'enquête a été longue.
C'est une instruction très longue puisque Landru est arrêté en avril 1919 et que le procès commence le 7 novembre 1921. Donc ce sont 2 années et demie. Ce qui explique aussi la différence entre le Landru que nous connaissons, ce personnage un peu hâve, un peu dur, qui a quand même passé 2 ans et demi en préventive, et puis le Landru charmant, séduisant, qui a fait tomber ses dames. Et j'ai retrouvé quelques photos de Landru jeune. Ce n'est pas le même visage, évidemment, du tout. Il était beaucoup plus avenant, beaucoup plus rond, beaucoup plus souriant aussi que pendant le procès. Et l'instruction est très longue parce que d'abord, Landru n'avoue pas. Ensuite, il y a une série de perquisitions dans tous les lieux qu'il habite, qu'il occupe. On retrouve les effets de ces femmes disparues. Il faut décortiquer ses carnets. Et bon, il va être surnommé l'homme aux 283 femmes. Ce n'est pas qu'il ait eu des relations physiques avec ces 283 femmes, mais comme il procédait par petites annonces pour recruter, si j'ose dire, ses victimes, eh bien, il a été en relation épistolaire avec 283 femmes qui ont répondu à ses annonces. Et en fait, il classait les réponses. Évidemment, les femmes pauvres, affligées d'une nombreuse famille, ne l'intéressaient pas du tout et il ne les a pas rencontrées. Mais les femmes qui avaient du bien et qui étaient relativement isolées, qui pouvaient l'être encore un peu plus par son action, devenaient des cibles, car au fond, ses motivations étaient essentiellement crapuleuses. Ils voulaient s'approprier leurs biens.
Tout cela explique pourquoi ce procès est un événement considérable et pourquoi il nous renseigne sur le fonctionnement de la justice à ce moment-là et aussi sur les relations entre le monde littéraire et le monde judiciaire. Je pense au développement de la chronique judiciaire qui est très à la mode et dont un exemple est fourni éclatant par le récit que Colette, la grande Colette, nous donne de ce procès. Écoutons-la. J'emprunte cette lecture à Emmanuel Laurentin qu'il avait donné dans son émission « La fabrique de l'histoire » du 20 octobre 2017.
Le matin, 8 novembre 1921. Voici Landru. C'est son entrée, et non celle des robes rouges et noires qui met un peu de gravité dans cette salle petite, dépourvue de majesté, où l'on parle haut et où on s'ennuie parce que la cour se fait attendre. C'est lui qui attire et retient tous les regards. Lui, 100 fois photographié, caricaturé, reconnu de tous, et différent pourtant de ceux que l'on connaît de lui. Voilà bien la barbe, la calvitie popularisée, le sourcil crépé comme postiche. Mais cet homme maigre porte sur son visage quelque chose d'indéfinissable qui nous rend tous circonspects. Une femme, tête nue, derrière moi, chuchote « Il a vraiment l'air d'un monsieur !» Quel éloge ! Un journaliste affirme que Landru a une barbe de préparateur en pharmacie. Un dessinateur dit « Il est bien convenable, on jurerait un chef de rayon à la soie. » La foule n'émettra jamais d'opinion unanime sur Landru. L'homme aux 50 noms, l'homme aux 283 aventures féminines, même sans bouger et avant qu'il ait parlé, est déjà proté. Séduisant, ce séducteur ? Correct, certainement. Verlainien, comme on l'a décrit ? Non, ni génial, ni difforme. Au-dessus des vertèbres maigres du cou, le crâne est beau et peut couver l'intelligence, qui sait, l'amour. Je cherche en vain dans cet œil de Landru, profondément enchâssé, une cruauté humaine, car il n'est point humain. C'est l'œil de l'oiseau, son brillant particulier, sa longue fixité quand Landru regarde droit devant lui. Mais s'il abaisse à demi ses paupières, le regard prend cette langueur, ce dédain insondable qu'on voit aux fauves encagés. Je cherche encore sous les traits de cette tête régulière le monstre et ne l'y trouve pas. A-t-il tué ? N'a-t-il pas tué ? Nous ne sommes pas prêts de le savoir.
Ce qui frappe dans cette citation notamment, je pense, c'est on est sensible au fait que Colette parle de la difficulté de trouver le monstre. On ne sait pas s'il a vraiment tué, et cette incertitude est au cœur du procès lui-même. Et le prévenu en joue abondamment, avec beaucoup d'esprit.
On peut s'identifier à Landru parce que, contrairement au voyou, je dirais professionnel, il a, c'est bien souligné par Colette, il a l'aspect du petit employé modèle, du monsieur qu'on croise dans l'autobus, du monsieur tout à fait convenable. D'ailleurs, Landru est un père de famille honorablement connu à Clichy, père de 4 enfants qu'il élève de façon très patriarcale. Il a par ailleurs une jeune maîtresse, je dirais, comme quiconque a un petit peu de bien à cette époque-là. Bref, il est bien habillé, il est même assez soigneux de sa personne. Au fond, il est poli, bien élevé, il argumente de manière à montrer qu'il a tout de même quelque éducation. Au total, ceux qui sont venus voir le monstre, eh bien, se retrouvent devant une énigme. Et c'est bien d'une énigme dont nous parle Colette. Comment ce personnage, au fond, si ordinaire, a pu éventuellement tuer, découper, faire disparaître 11 personnes. Et elle a beau le scruter, vous voyez, il y a encore cet esprit, cette recherche de la marque extérieure de la criminalité, qui est évidemment une vue de l'esprit.
Ce qui donne à ce procès toute sa saveur, si je puis dire, auprès de tout un public mondain. On voit arriver Maurice Chevalier, Miss Tinguette, Béatrice Dussane, la femme du général Nivelle, de triste mémoire, 1917. Tous prennent le train de 10h40 qui amène à Versailles, qu'on appelle le train Landru.
Le train Landru, c'est-à-dire que à Paris, on s'ennuie un petit peu en novembre 1921, et quand on a vent de ce procès à Versailles, tout le monde se précipite à Versailles pour voir le personnage d'abord, et puis le personnage physiquement est un petit peu déroutant, voire décevant. En revanche, c'est un personnage qui ne va pas être muet, il va même un petit peu éclipser son défenseur par sa manière de contester les faits, de pinailler sur les moindres détails, de répliquer. Il va passionner son monde, et il faut voir aussi que, bon, évidemment, être l'accusé dans un procès, c'est plutôt infamant, mais pour quelqu'un comme Landru, qui vient d'un tout petit milieu ouvrier et qui a été pendant longtemps l'espoir de ses parents, quelqu'un qui devait s'élever dans la société, c'est son apothéose. C'est le moment où, effectivement, comme le souligne Colette, il devient un monsieur. Enfin, on le remarque, enfin, il est reconnu à sa juste valeur. Lui, l'inventeur qui n'a pas pu développer ses inventions, lui qui se disait architecte parce qu'il avait été vaguement commis dans un cabinet d'architecture, là, tout à coup, il devient le point de mire, il devient le personnage important, et au fond, il s'épanouit dans ce procès.
Comme il ne manque pas d'humour, certains de ses propos sont répétés sans fin par tous.
C'est une vraie vedette.
Par exemple,
la fameuse phrase « Vous parlez toujours de ma tête, je ne regrette de ne pas en avoir plusieurs à vous offrir », elle est tout à fait authentique. Il y a un autre bon mot dont Gainsbourg fera une chanson qui est « Monsieur le Président, quand une femme vous quitte, sait-on jamais pourquoi et pour qui elle vous quitte ?»
Ah, vous demandez du Gainsbourg. En voici.
« Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte ? Moi je le sais, toi tu es parti à plus jamais. Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte ? Tu es mon seul amour, et ce je crois pour la vie. Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte? Qu'importe là ou ailleurs, les verrous sont mis. Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte? Qui disait cela? C'est ce que tu n'as jamais su. Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte? Moi je le sais, c'est au cours de son procès.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Sur le fonctionnement de la justice, en ces temps-là, la cour d'assises avec jury populaire et juge professionnel, il n'y a pas d'appel à l'époque, contrairement à aujourd'hui. Il y a un homme qui s'est beaucoup intéressé au fonctionnement des cours d'assises, c'est André Gide, qui a expliqué qu'il avait toujours été fasciné par ce type de justice et qui en avait fait, avant la guerre de 14, un livre, après avoir souhaité être membre du jury, souvenir de la cour d'assises. Pour le procès de Landru, j'y décrivais la manière dont le président pose les questions, dont il aide et favorise le témoignage, fût-ce inconsciemment, dont au contraire il gêne et bouscule tel autre, informe les jurés sur son opinion personnelle, dont il est difficile de ne pas tenir compte. Et puis il y a la grande question de l'éloquence judiciaire, c'est la grande époque pour les avocats des effets de manche et... En l'occurrence, Landru est défendu par un des maîtres du barreau, à côté de ce que seront plus tard Floriot, Maurice Garçon, Torres et d'autres, Brie, Moreau, Giafferi.
Oui, Moreau, Giafferi, c'est évidemment un ténor du barreau qui, par le procès Landru, devient véritablement une vedette. Il était déjà connu un petit peu avant, mais ça va être la grande cause qui va faire de lui l'avocat le plus en vue dans les années 20 et années 30. Moreau a été un bon défenseur parce que lui, il a beaucoup appuyé sur l'absence d'aveu, bien sûr, et surtout l'absence de corps. Et un petit peu à la manière d'un Clémenceau accusé de corruption qui disait « Où sont les millions ?», il y a un très beau mouvement où il dit « Où sont les cadavres ?»
Vous faites allusion au grand discours de Salerne de 1893.
Tout à fait. Il faut voir que Moreau...
De Clémenceau, je veux dire.
Oui.
Où sont les millions? Où sont les femmes?
Et là, c'est où sont les femmes? Où sont les cadavres? Et effectivement, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de cadavre. Donc Moreau joue là-dessus. Donc c'est un personnage éloquent, bien sûr, éloquent au prétoire, éloquent dans l'hémicycle aussi. Et lorsqu'il défend Landru, évidemment, il fait aussi sa promotion et il se fait connaître. Il va être abondamment dessiné et caricaturé dans des attitudes oratoires qui sont typiques du fonctionnement des assises de l'époque. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on a retenu Moreau Giafferi, mais tout le dossier a été préparé par un autre avocat, maître de Navière du Treil, que Landru aimait beaucoup. Et on a même des photos de Landru dédicacées à cet avocat qui a préparé le dossier. Mais ensuite, c'est le Tédor, c'est Moreau, c'est le patron qui vient évidemment plaider et qui va entrer dans l'histoire.
Le procureur, naturellement, est un autre protagoniste essentiel de ce type de procès. En l'occurrence, c'est le procureur Godefroy qui est efficace et auquel dans une longue lettre, s'adressera à Landru après sa condamnation à mort. Il lui écrit ceci, c'est assez intéressant. En m'observant aux assises, devant la netteté de mes réponses, il vous est venu un doute. Doute affreux pour vous qui souteniez l'accusation. Ce doute, je l'ai vu naître et grandir, et vous qui ne me quittiez pas des yeux, vous avez senti que je le comprenais. J'ai suivi vos pensées. Lorsque vous avez vu aux assises la cuisinière malingre, le meuble, la cuisinière malingre, plus faite pour cuire une dinette de petit ménage comme vous avez dû en faire enfant avec votre petite sœur, vous avez compris qu'il n'avait pas pu se passer là-dedans les épouvantables atrocités dont vous comptiez m'accuser. Parce qu'on apportait, de fait, à l'audience, les meubles qui étaient supposés accuser le personnage, notamment cette cuisinière.
Ce qui a rendu aussi ce procès spectaculaire, c'est évidemment l'ampleur des scellés, hein, puisqu'on présente au public et aux jurés tout ce qu'on a pu trouver chez Landru. Il n'y a pas de cadavre, mais il y a les papiers, les objets, y compris les plus intimes des personnes disparues, tout un mobilier aussi qu'il brocantait. Donc ça ressemble un petit peu à un marché aux puces, hein, cette salle d'audience. Et puis à un moment, et là tous les commentateurs notent un frémissement dans la salle, arrive la fameuse cuisinière. Et il existe une photo où la cuisinière est posée entre deux gendarmes, comme si elle était une sorte de complice, comme si c'était elle qui était l'accusée. Et donc, tout le monde est un petit peu surpris par la taille de cette cuisinière, qui est une petite cuisinière pour une maison de campagne. Mais
il paraît qu'elle a été rachetée par un personnage célèbre, assez connu de la télévision actuelle, autrement dit Laurent Ruquier.
C'est vrai, il la possède.
Chacun ses... son goût des enchères.
Il faut savoir que à l'époque, après les procès, une fois que le jugement était définitif, eh bien les objets étaient vendus aux enchères, effectivement, par les domaines. Alors souvent c'était acheté par des brocanteurs, des ferrailleurs. Bon, après une affaire mondaine comme l'affaire Landru, tous les collectionneurs se sont précipités. Moi-même, j'ai récupéré il y a peu de temps une pièce à conviction très compromettante puisqu'il s'agit d'un fer à friser.
J'allais dire que c'est l'achat était un peu morbide, mais je me hâte de ne pas le dire,
voilà.
Puisque je sais que vous avez acheté ce fer à priser. Il faut que nous en venions maintenant, pour finir cette conversation, Bruno Fellini, à l'image rétrospective de Landru, qui est restée une légende et qui a pris sa place dans la télévision, dans le cinéma, dans la littérature, de diverses façons. Dès ce moment-là, Marcel Achard, le dramaturge, on parle de façon intéressante, il développe l'idée du complot. Il pense que c'est le gouvernement qui a organisé l'affaire Landru, vous voyez jusqu'où on peut aller, pour détourner l'opinion de sa douleur devant les morts de la guerre.
Oui, alors Achard est tout jeune à ce moment-là, il n'a pas encore écrit de pièces de théâtre, il débute dans le journalisme et déjà son imagination déborde un petit peu. Mais effectivement, il va être un des premiers à développer cette théorie du complot selon laquelle, au fond, l'affaire Landru est une mise en scène. Et plus tard, on va considérer que c'est une mise en scène de Clémenceau. Bon, Clémenceau n'est plus au pouvoir quand Landru est jugé, il est au pouvoir quand il est arrêté. On n'est pas tout à fait dans le même temps. Est-ce que Landru a servi à détourner l'attention au moment des négociations du traité de Versailles? Disons qu'il a pris de la place dans les journaux en 1919, mais au moment du procès, ça n'a plus lieu d'être. Simplement, une fois que Landru est condamné à mort, pour éviter que son exécution soit aussi mondaine et scandaleuse que le procès, en fait, des précautions ont été prises. Il y a un cordon de gendarmerie qui font que les curieux qui arrivent de Paris ne peuvent pas aller au pied de la guillotine, et l'exécution a lieu un peu plus tôt que d'habitude. Et du coup, il va en rester quelque chose, c'est que non, Landru n'a pas été exécuté. On a exécuté un mannequin ou un cadavre ou un autre condamné. Et c'était un comédien payé par le gouvernement. Et il est parti en Amérique du Sud, où il touche une rente de la République française.
Buenos Aires, disait Charles Trenet dans la chanson que
oui,
je vous ai donnée.
Et ça s'inspire d'une grande autorité, c'est le clown Grock, qui, dans un livre autobiographique, explique qu'il a rencontré Landru, effectivement, à Buenos Aires, grâce au chef de la police, etc. Bon, alors tout ça, évidemment, est de haute graisse, mais... ça va durer assez longtemps, et on retrouve d'ailleurs cette idée un petit peu dans le film de Chabrol à un moment, où on a un Clémenceau joué par Raymond Queneau qui donne des instructions pour que on donne le maximum de visibilité au procès Landru.
Néanmoins, l'exécution a lieu en public. Ce sera le cas jusqu'en 1939. À Versailles, précisément, la dernière exécution publique, celle de Weidmann, aura lieu juste avant la Seconde Guerre mondiale, avec tout cette ambiance effectivement assez morbide alentour, avec le public qui essaie de venir voir le moment fatal.
Plus que voir, il y avait toutes sortes de superstitions assez atroces, et par exemple le jeu était s'il y avait du sang qui coulait sur le pavé, d'y tremper un tissu, un mouchoir, et de conserver cette relique qui pouvait porter bonheur, qui pouvait préserver toutes sortes de choses.
Comme Louis XVI.
Exactement. Et donc ça veut dire que le public se comportait très mal. Bon, par ailleurs, dans le cas de Weinmann, il y a eu également des prises de vue, des photographies, des caméras qui étaient dans les étages des immeubles. Donc là, le gouvernement a jugé que vraiment ça allait trop loin et a décidé que les exécutions auraient lieu à l'avenir sous le dais noir.
Jusque à la fin, cette ambivalence du personnage de Landru s'affirme avec ses bons mots du dernier moment. On se rappelle que Lassner, le brigand à l'époque de la monarchie de Juillet, montant à l'échafaud un lundi matin, avait dit « Voici une semaine qui commence mal ». Dans le cas de notre Landru, lui aussi on attribue quelques mots de la fin, vrai ou pas ?
On dit qu'au moment, vous savez, du rituel verre de rhum et de la dernière cigarette, il aurait refusé en disant « je ne bois pas, je ne fume pas » et
c'est mauvais pour la santé.
Exactement. On lui prête un propos, alors qui à mon avis est apocryphe. Vous savez que avant la guillotine, on découpait les cheveux et la chemise pour ne pas gêner l'action du couperet. Et il aurait dit au coiffeur « faites-moi une coupe à la mode, il faut encore que je plaise à ces dames ». Je ne crois pas qu'il l'ait dit. Il y a bien sûr un aumônier, puisqu'il est censément catholique, c'est même un ancien enfant de cœur, Landru.
Mais il refuse.
Et il désigne les aides exécuteurs en disant « je ne voudrais pas faire attendre ces messieurs ». Et enfin, il y a le dernier échange avec son avocat, son défenseur, Maître de Moreau de Giafer, qui lui demande si il a tué ou non ces femmes.
Tout cela explique, contribue à cette légende qui va ensuite être portée. Il faut que nous y venions. Vous évoquiez Chabrol, Bruno Fulini, qui en particulier va être porté au cinéma dans deux œuvres fameuses, Monsieur Verdoux de Chaplin, 1947, et Le Landru de Claude Chabrol, en 1963. Écoutez ce que Chabrol lui-même en a dit après coup, en octobre 1973. Il a dit de son film et du film de Chaplin, Monsieur Verdoux. On est dans l'émission Ciné Magazine de Claire Clouzot.
Vous vous étiez depuis très longtemps intéressé et amusé par le personnage de Landru ?
Oui, ça m'amusait beaucoup. Mais ce qui m'amusait beaucoup, c'est ce type qui, en temps de guerre, fabrique sa petite industrie à lui. Oui, ça, c'était... Parce que ça n'était possible que pendant la guerre. Parce que s'il y avait eu plus d'hommes, il avait beaucoup moins de chance avec les femmes. Lui, il était déserteur, il avait fait des faux papiers de réforme, enfin, c'était extrêmement complexe. Et bref, il était là tout seul au Luxembourg, au milieu des bonnes femmes. C'était épatant.
Vous êtes un inconditionnel de Chaplin ?
Inconditionnel, pas du tout. Non, il y a des trucs de Chaplin que je n'aime pas beaucoup. Lui, je crois que je ne l'estime pas énormément. Profondément, je crois que je ne l'estime pas énormément. À vrai dire, M. Verdoux m'aurait plutôt empêché de tourner Landru, pour dire la vérité. Et je me suis dit qu'après tout, mon ambition était bien moindre que celle de Chaplin. Et que je pouvais, moi au contraire, m'attacher à ce qui n'avait pas intéressé Chaplin, c'est-à-dire l'aspect physique, le côté guignol d'époque et tout ça. Enfin, j'ai quand même fait Landru. Pour une raison très simple, c'est que c'est un personnage qui me ravissait. Enfin, Landru lui-même, autant que Verdoux, c'est un personnage que je trouvais très rigolo. Alors, voilà, ceci dit, Chaplin a eu beaucoup plus de courage que moi, c'est-à-dire qu'il n'a pas hésité à prendre des espèces de monstres épouvantables pour faire les...
J'allais vous dire, vos femmes sont ravissantes, charmantes, adorables, bien habillées.
Oui, moi c'était des femmes charmantes et bien habillées parce que je trouvais que la vérité sur Landru était un peu trop sordide quand même pour être acceptée dans le cadre d'un film de divertissement. Enfin, j'aurais voulu faire un pamphlet, enfin une œuvre ou Vitriol, bien entendu, j'aurais fait autrement. Mais enfin là, c'était pas du tout le cas, c'était très compliqué, j'étais pas tellement... libre de faire ce que je voulais à l'époque. J'avais passé de Georges Sand à Landru, c'était assez... ça me posait beaucoup de problèmes.
De fait, dans le film de Chabrol, on voit Michel Morgan et Danielle Darrieux, resplendissantes, interpréter le rôle des dames entre deux âges, qui ont été trucidés par Landru. Mais on est sensible à la différence que Chabrol lui-même voit entre le film de Chaplin, Monsieur Verdoux, et le sien. C'est un film qui effectivement a des préoccupations, je parle de suite de Chaplin, qui a des préoccupations de caractère politique et social qui sont tout à fait absentes oui. de l'œuvre de Chabrol. On y voit son personnage, Verdoux, dire « Quant à l'assassinat collectif, le monde ne l'encourage-t-il pas ?» Il dit aussi « Un meurtre fait un bandit, 10 millions, un héros. Le nombre sanctifie. » On comprend qu'aux États-Unis, le film a été mal reçu, alors qu'il a été très très bien en France.
Oui, M. Verdoux s'inspire très librement de l'affaire Landru, hein, il n'y a rien de factuel. En revanche, c'est une satire sociale sur la malfaisance, sur le crime, avec un personnage, je dirais, trop poli pour être honnête. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que Chaplin a saisi quelque chose de Landru. Quand ce film est sorti en France, le journal Détective a eu l'idée d'aller chercher Belin, qui était un retraité à ce moment-là, pour lui faire assister à l'avant-première et pour recueillir son témoignage.
Et Belin, je rappelle que nous l'avons vu tout à l'heure comme l'inspecteur qui a réussi à arrêter Landru.
Et qui a passé du temps à essayer de le faire avouer. Et Belin dit que bon, le film n'a aucun rapport avec l'affaire, sauf le comportement de l'assassin, qui est un homme prévenant, à l'écoute, qui va réussir à séduire des femmes, pas du tout en prenant un air avantageux, mais au contraire en étant très attentif à leurs désirs, très à l'écoute, très mielleux, avec toujours un petit cadeau, toujours une attention. Ce personnage attentionné qui bâtit son piège pour finalement trucider la dame, c'est Landru, nous dit Belin. Le film de Chabrol est beaucoup plus documenté. C'est un scénario de Françoise Sagan qui a clairement utilisé la presse de l'époque, les comptes rendus d'audience, toute la documentation disponible, donc on est assez proche du fait divers, et avec cette différence majeure que on fait de Landru malgré tout un séducteur galant, et que le côté, comme le dit Chabrol, le côté sordide est éliminé, sordide parce que au fond ce personnage était un pilleur, c'était un homme qui vidait les comptes, vidait les maisons, brocantait tout ce qu'il pouvait brocanter, en abusant de la solitude et de la faiblesse de femmes qui étaient très seules, des veuves, des vieilles filles, des femmes vulnérable. Et cet aspect-là passe à la trappe de la même façon que le contexte est un petit peu oublié. Alors c'est vrai que Landru, dans un Paris où il n'y avait plus d'hommes jeunes, avait un avantage comparatif. La guerre l'a servi aussi parce que la police à ce moment-là se préoccupait surtout de contre-espionnage. Et donc les escrocs, les voleurs, éventuellement les assassins, le crime ordinaire était peu poursuivi entre 1914 et 1918. Et puis, le contexte de guerre lui a permis aussi de s'inventer des biens, des origines qui n'étaient pas vérifiables, puisqu'il est toujours originaire des Ardennes ou d'un département occupé par les Allemands.
La manière dont Chabrol montre les relations de Landru avec les femmes, avec le recul, est assez intéressante.
Bah, disons que le personnage qu'incarne Denner est très intéressant. Ce n'est peut-être pas le vrai Landru. Là, pour le coup, il y a une interprétation qui est astucieuse, qui est amusante. Mais on est dans des jeux de séduction peut-être différents de ceux qui ont pu être au moment où Landru a abordé ces femmes et leur a fait miroiter le mariage, une nouvelle vie aux Amériques, une nouvelle vie aux colonies, les entraînant à Gambet avec leurs bijoux, leurs économies, des procurations signées et tout ce qui, évidemment, lui a permis de s'enrichir à leurs dépens.
Et ce féminicide est considéré avec quelque complaisance.
À l'époque, ça fait plutôt sourire. De la même façon, ça c'est un héritage du procès. Il faut bien voir qu'au moment où l'affaire Landru éclate, et surtout au moment où elle est jugée, c'est un moment où la répartition des tâches entre les deux sexes est en train d'évoluer. Suite à la Grande Guerre, des femmes ont rempli des métiers d'hommes, ont commencé à gérer de l'argent, il est question de leur donner le droit de vote, et au fond, le jeu de mots en vogue à l'époque, c'est de dire Landru, c'est celui qui a remis la femme femmes au foyer. Effectivement, encore dans les années 60, on est dans l'idée que voilà, ces femmes qui s'envoyaient en l'air pendant que les pauvres combattants croupissaient dans les tranchées ont été finalement punies par là où elles avaient péché en rencontrant un séducteur qui était en fait un tueur.
La femme au foyer, c'est encore une façon de prendre une distance, celle que tous les chansonniers à l'époque ont prise et celle que la distance fait parfois prendre aujourd'hui.
Oui, et avec un goût de l'humour noir qui est peut-être moins bien porté aujourd'hui. Il faut savoir qu'après la condamnation de Landru, la maison du crime, la maison de Gambet, va devenir un hôtel-restaurant qui va s'appeler Au grillon du foyer, où on pouvait déguster la côte de bœuf Landru, évidemment cuite au feu de bois. On pouvait y acheter des souvenirs, des cartes postales, des poudriers, toutes sortes de choses. Et pour les jeunes couples, passer une nuit chez Landru, c'était une expérience visiblement recherchée. On a des photos où on voit des familles, tout sourire, qui posent devant la maison du crime, devenue une sorte d'attraction, si vous voulez.
Eh bien, nous avions fait une émission sur la nuit de noces, je n'avais pas entendu dire qu'aucune ait eu lieu dans la villa de Landru. Sur cette évocation, cher Bruno Fulini, nous sommes obligés, là, de clore cette émission consacrée à Landru et sa portée symbolique et historique. Votre livre s'appelle Landru, l'élégance assassine, et est paru aux éditions du Rocher, voici 3 ans. J'ai cité le très regretté Dominique Khalifa, L'encre et le sang, récit de crime et société à la belle époque, paru chez Fayard en 1995. Il y a des ouvrages aussi précieux qu'on trouvera en ligne de Anne-Claire Ambroise Rendu sur le même thème. Et puis, hommage à 2 de vos ouvrages récents. Le premier s'appelle « Le fichier mondial des espionnes ». C'est un très beau livre qui paraît ces jours-ci. C'est un livre qui confirme votre compétence quant au dossier de police où vous n'avez pas cessé de faire des trouvailles magnifiques.
Oui, les espionnes sont encore plus compliquées, évidemment, à suivre que les criminels. Et pour certaines, il n'existe qu'une seule photo connue suite à une perquisition du contre-espionnage. Donc j'ai voulu rassembler des éléments biographiques, mais aussi les portraits de toutes les femmes qui ont joué un rôle dans le monde du renseignement, des temps bibliques à nos jours.
Et vous avez une belle préface d'Amélie Nothomb qui écrit « J'admire l'espionne comme j'admire tout ce qui me dépasse ». Et puis vous avez publié aussi tout récemment un livre qui s'appelle « Le génie humain, les archives des inventeurs de 1791 à nos jours ». Cela rejoint, on ne le sait pas forcément, également l'itinéraire de Landru, puisqu'il a espéré à un moment donné inventer une bicyclette à moteur.
Oui, et j'ai retrouvé le brevet qu'il a déposé en 1899 et qui est toujours conservé dans les collections de l'Institut National de la Propriété Industrielle, l'INPI.
Oui, ils l'ont édité en partenariat avec l'éditeur Grunt. Merci de nous avoir fait vivre Bruno Fulini avec Landru, personnage considérable, au cours de cette émission.
Et merci de votre invitation. C'est toujours avec plaisir que j'évoque ces grands faits divers à l'aune de la grande histoire.
Vous pourrez, je le disais, trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission.
Landru, maître, il faut que vous me disiez. Vous n'avez plus rien à perdre maintenant. Je les avais vous tués. Cela, maître, je ne peux pas vous le dire. C'est mon petit bagage. Je meurs, l'âme innocente et tranquille.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec Yvan Turc à la prise de son, Célian Guimard à la discothèque, Emmanuel Luciani pour les archives de l'INA et Corinne Chauvel pour la documentation.